mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 20 juin et je suis aujourd'hui accompagné en studio de Mathilde qui vient passer une semaine pour son stage de seconde avec nous à Radio Escapade. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Et Mathilde, tu nous as préparé une petite information internationale sur laquelle on reviendra dans quelques instants, c'est bien cela?
Tout à fait.
En attendant, je commence traditionnellement avec les communiqués qu'on a pu recevoir par boîte mail. Et celui-ci nous vient d'un collectif qui s'inquiète, de parents et d'enseignants qui s'inquiètent de la fermeture l'année prochaine d'une classe en maternelle à Ganges qui accueille des enfants atteints de troubles du neurodéveloppement. C'est une unité d'enseignement expérimental, une UEE donc en maternelle, qui existe depuis la rentrée 2022 à l'école publique à Ganges. Et qui est menacée donc de fermeture. Une pétition a donc été mise en ligne déjà pour s'inquiéter, pour interpeller la communauté des communes gangeoises et suménoises sur cette décision. Je vous livre donc quelques éléments du communiqué, mais pour l'instant, on n'a pas eu le temps d'aller chercher un petit peu plus loin. En tout cas, cette UEE, j'ai donc appris son existence par la même occasion. C'est donc une unité d'enseignement expérimental qui s'est menée dans le cadre d'un partenariat entre les trois parties, donc l'éducation nationale, le Mascavaillac, donc là, l'association éducative Mascavaillac et la communauté des communes des Cévennes gangeoises et suménoises. C'est un dispositif éducatif qui cherche à répondre donc aux besoins spécifiques des enfants qui sont atteints de troubles du neurodéveloppement. Ça inclut notamment tous les troubles du spectre autistique. Et c'est pour donc des enfants de maternelle, donc de 2 à 6 ans. C'est un manque sur le territoire puisqu'il n'y a pas vraiment de structure adaptée pour ces jeunes élèves et qui ne peuvent malheureusement pas bénéficier d'une scolarité, on va dire, ordinaire à cause de donc les troubles dont ils souffrent. Ce dispositif de maternelle répond donc à un besoin sur le territoire. C'est donc l'Éducation nationale et le Mascavaillac qui soutiennent ce dispositif, notamment puisque c'est pour eux un succès de l'école inclusive avec ce bilan très positif pour les élèves après cette première année, une amélioration du développement, des acquisitions et de l'inclusion. Et l'Éducation nationale a d'ailleurs tenu à marquer son engagement en annonçant pour l'année prochaine l'ouverture d'un poste d'enseignant à titre définitif ainsi que le financement d'une AESH, donc une auxiliaire d'éducation. Je ne sais plus ce que veut dire le S, mais le S c'est pour le H c'est pour le handicap en tout cas. Donc quelqu'un pour accompagner les élèves pour la pause de midi, le temps de la pause méridienne pour la rentrée donc 2024. Et c'est visiblement là qu'il semble avoir un problème puisque, à la surprise de tous, nous dit-on, la communauté des communes, donc Ganges-Sumène, a décidé de se retirer de ce partenariat. Visiblement, le problème, c'est par rapport à l'accès justement à la cantine du midi, donc pour ses élèves. Et la communauté des communes refuserait d'autoriser l'accès au réfectoire à ses élèves de cette classe UE, qui sont pourtant, pour les professeurs, capables de déjeuner en collectivité. Apparemment, il y a eu un problème de confiance rompu avec le Mascavaillac. Ce sont les mots de Monsieur Fratissier, le président de la communauté des communes Ganges-Sumène. Et donc, s'ils ne peuvent pas aller à la cantine, eh bien, cette décision engendrera la fermeture de la classe. En allant donc, rappelle la pétition, à l'encontre de la stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement et de l'école inclusive. Sont rappelés d'ailleurs les textes de loi auxquels fait référence cela. Donc, sur le site de la pétition, il y a quelques témoignages de parents qui ont pu bénéficier de cette classe pendant cette année et qui s'en trouvent ravis, puisqu'ils peuvent eux aussi, de leur côté, retourner par exemple au travail. Et qu'évidemment, les enfants bénéficient grandement de tous ces progrès. Donc des parents et un personnel éducatif très inquiet pour la rentrée. Ils espèrent donc pouvoir rattraper la situation et c'est pourquoi eh bien justement cette pétition a été mise en place en attendant peut-être une négociation. Donc c'est notamment, si vous souhaitez leur écrire, il y a un mail, c'est classeueganges outlook.fr. Un communiqué a donc été mis en place dans la foulée, puisque cette nouvelle est très fraîche. Le communiqué date du 18 juin, je crois qu'ils ont appris ça dans le courant du week-end. On espère en savoir plus d'ici la semaine prochaine pour vous donner des informations un petit peu plus complètes. Et je continue avec les pétitions, et c'est une tribune qui est lancée par le Fonds pour une presse libre, qui est bien évidemment liée au contexte électoral du moment en France. Ce sont plus de 90 médias déjà qui ont donc signé cette tribune, et ils lancent un appel commun contre l'extrême droite à l'initiative donc de ce Fonds pour une presse libre. L'enjeu du communiqué, c'est de préserver la possibilité même d'une information indépendante, donc qui soit indépendante du pouvoir politique, une information pluraliste, avec des journalistes exerçant leur métier en toute liberté. Sans presse libre, disent-ils, pas de démocratie. Voici donc la tribune de cette presse inquiète de son avenir. Évidemment, ici à Radio Escapade, on se sent aussi visé par les problématiques qui sont listées ici. Voici le texte. Donc, jamais depuis la libération, l'extrême droite en France ne s'est trouvée si près de la victoire. Elle porte un projet de démolition sociale, de repli chauvin, de discrimination raciste, sexiste, homophobe, de guerre aux minorités, de basculement liberticide et de régression écologique. Dans cette stratégie de conquête du pouvoir, elle a fait des médias un terrain privilégié, avec la prise de contrôle de titres, de chaînes de télé, de radio, par des milliardaires au service de son projet. Par ce maillage, elle impose dans le débat public des fausses nouvelles et des obsessions contraires aux droits fondamentaux. Le Rassemblement National annonce déjà la couleur pour l'audiovisuel public voué, s'il gagnait les élections, à la privatisation. C'est dans le programme. La liberté de la presse est donc dans sa ligne de mire. Partout en Europe, dans le monde où l'extrême droite gouverne, celle-ci est violemment attaquée. Interdiction de publication, destruction de secrets des sources, multiplication des procédures bâillons, ces procès qui sont intentés pour tenter justement de museler la liberté d'expression, censure, pression et intimidation, assèchement aussi des aides publiques à la presse. En France, le terrain a malheureusement été méthodiquement préparé par l'exécutif sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse de restreindre les protections et les droits des journalistes par les atteintes au secret des sources et la primauté du secret des affaires, la loi sur la sécurité globale, la fusion programmée de l'audiovisuel public et le laisser-faire en matière de concentration capitalistique des médias aux mains donc de grands industriels, cela au détriment du pluralisme et de l'indépendance. Je termine donc le texte de cette tribune du Fonds pour une presse libre. Le combat contre l'extrême droite et son projet est au cœur de nos engagements éditoriaux. Dans notre diversité, nous entendons prendre toute notre part à l'indispensable rassemblement politique, social, populaire au service de la justice sociale et écologique, de l'émancipation humaine et de l'extension des droits et libertés pour lui barrer la route du pouvoir. L'enjeu est de préserver la possibilité même d'une presse indépendante du pouvoir politique, pluraliste, avec des journalistes, je le redis, exerçant leur métier en toute liberté. Ils appellent donc dans cet édito, qui a été partagé donc dans toutes les colonnes des 90 médias qui ont signé. Ils appellent à soutenir la mobilisation sociale et citoyenne en cours. Et ils considèrent que... on va s'arrêter là. C'est le Fonds pour une presse libre, donc vous pourrez retrouver cette tribune dans 90 médias, dont par exemple Bastamag ou Mediapart. Aussi CQFD, j'ai vu les Marseillais, et donc de très nombreux autres. Et voilà, on voulait apporter aussi notre petite pierre à l'édifice en relayant en tout cas le texte de cette tribune.
Une dictature, comme vous y allez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'ORS.
Des nouvelles du monde.
On va parler politique environnementale un peu, puisque justement dans les colonnes de Mediapart sont relatés un petit peu le contenu du 6e rapport du Haut Conseil pour le Climat, le HCC. Il a été publié aujourd'hui même, ce jeudi 20 juin. C'est donc un rapport qui est fait tous les ans et ce depuis 6 ans. Et on peut lire pour une fois que justement le Haut Conseil pour le Climat salue et donc encourage l'accélération de la baisse des émissions de CO2 du pays. Toutefois, cette vigie française du climat, ainsi qu'on appelle souvent le HCC, alerte malgré tout sur les impacts du chaos climatique qui grandissent plus vite que les moyens qui sont mis en œuvre par le gouvernement pour s'y adapter. Le titre de ce rapport, donc de cette étude, c'est « Tenir le cap de la décarbonation, protéger la population ». L'étude était très attendue après une année 2023, vous le savez, qui a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, et ce, après que le gouvernement ait en février amputé de 2,2 milliards d'euros le budget dédié à l'écologie, entre autres, plusieurs ministères qui ont subi ces grosses coupes sèches. Lors de la présentation de ce rapport, c'est la climatologue et présidente de l'organisme, donc le Haut Conseil pour le Climat, Corinne Le Quéré, qui a souligné tout d'abord qu'au cours de la dernière décennie, la France avait fait l'expérience de l'aggravation des impacts du changement climatique et a rappelé également que plusieurs limites ont été atteintes localement en France, notamment en termes d'accès à la ressource en eau. Ce rapport du HCC indique en effet que certains territoires français, notamment ceux qui ont été fréquemment inondés, ont déjà atteint les limites de leur capacité d'adaptation au changement climatique et que les inégalités d'exposition face au dérèglement du climat risquent de s'aggraver, notamment pour les enfants, les ménages et les entreprises. Ce phénomène présenterait donc des risques majeurs pour la société dans son ensemble. Même s'il souligne donc et salue que l'adaptation au changement climatique est en train de s'institutionnaliser et de se pérenniser, malgré tout, un changement d'échelle reste essentiel, car la surchauffe de la planète s'intensifie rapidement et les moyens donc mis en œuvre par l'État pour limiter ses impacts demeurent trop lents. Le décalage se creuse entre les mesures prises et les besoins d'adaptation. Ce sont les mots encore de la directrice de recherche CNRS, membre du HCC, qui a participé à cette étude. Si on s'intéresse donc à la décarbonation et son rythme en France, ce alors que l'Europe est vouée à se réchauffer deux fois plus vite que tout le reste du globe, les émissions brutes de gaz à effet de serre de la France donc ont bien baissé de 5,8% par rapport à 2022. Une bonne nouvelle donc, et pour la première fois et hors crise Covid, le rythme de baisse de ces émissions se rapproche d'une trajectoire de décarbonation qui permettrait d'atteindre les objectifs climatiques de 2030. Toutefois, malgré ces résultats encourageants, l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone pour 2050, elle, reste très lointaine. À noter que dans cette baisse des émissions de CO2, environ un tiers de ces tonnes de carbone est dû à des facteurs conjoncturels et non pas une réelle politique. Par exemple, sont cités la reprise de la production nucléaire suite à l'arrêt d'une vingtaine de réacteurs en 2022. Donc le fait de repartir sur une production nucléaire mathématiquement, physiquement, fait baisser d'autres énergies plus productrices de CO2. Il y a aussi eu la diminution des activités industrielles ou encore la réduction du cheptel bovin. Cela en raison de difficultés rencontrées par le secteur agricole. Donc tout ça a permis de réduire les mégatonnes d'équivalent en CO2. Donc là, je vous ai parlé de un tiers de la baisse, et le reste, les deux tiers, donc c'est environ 15,3 mégatonnes équivalent CO2 restant. Donc ça fait environ 15 millions de vols aller-retour Paris-New York, si vous voulez chiffrer ça. Et bien donc ces deux tiers, eux, peuvent être considérés comme la part maximale de la baisse qui serait attribuable aux politiques publiques du gouvernement. Et là, c'est le journal Reporter qui se fait l'écho donc un petit peu des choses qui pourraient être améliorées. Tout d'abord, le rythme de réduction des émissions du secteur des transports doit tripler à l'horizon 2030 pour toujours essayer de coller aux engagements. Et le HCC pointe aussi l'urgence qu'il y a à préserver les puits de carbone naturels, c'est-à-dire tous les écosystèmes qui absorbent une partie du CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Ces derniers sont de plus en plus fragilisés, notamment par les impacts du dérèglement climatique, c'est un peu des phénomènes de domino en cascade, par exemple les méga-feux, les méga-incendies ou les sécheresses, qui ensuite, une fois ayant altéré tous les écosystèmes, diminuent la quantité de CO2 qui peut être absorbée par ces végétaux. C'est donc une véritable politique ambitieuse en matière de stockage du carbone par les forêts et dans les sols cultivés, notamment les prairies, qui restent encore à inventer. Ça, c'est un des gros points d'alerte donc, qui sort de ce rapport. Et enfin, le HCC s'est aussi et surtout alarmé de l'aspect législatif et de toutes les dispositions législatives climatiques qui prennent du retard. Et là, l'actualité politique récente française ne vient que ajouter de l'eau à ce moulin. Ni la loi de programmation énergie et climat, ni la stratégie française énergie et climat, ni la troisième stratégie nationale bas carbone, ni le troisième plan national d'adaptation au changement climatique, ni la troisième PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie n'ont été formellement adoptées, et ce, en dépit des obligations législatives, pointe donc ce rapport. Si vous n'êtes pas familier avec tous ces acronymes et toutes ces organisations, bon, vous pourrez vous reporter au lien donc, sur le site de Reporter pour voir qu'est-ce qui était censé discuter dans ces fameuses stratégies, ces plans nationaux et ces programmations pluriannuelles, mais tous ont un rapport donc, avec la transition nécessaire, au moins, d'une partie de l'économie française. Face à tout ce calendrier donc, législatif climatique qui est encore repoussé suite aux déboires récents de la politique française, la présidente du HCC a été jusqu'à écrire le 2 avril dernier une missive au Premier ministre, Gabriel Attal, lui expliquant se préoccuper du risque de recul de l'ambition de la politique climatique du pays. Je vous balance en vrac la liste des autres efforts qui restent à fournir ou craintes pour l'avenir. Bien les risques des nouveaux réacteurs nucléaires, les transports, le secteur des transports en retard, ça je vous en ai parlé. On parle aussi beaucoup du secteur du bâtiment, avec le retour des monogestes liés à l'isolation, alors que peut-être des stratégies plus ciblées selon l'état des bâtiments concernés seraient peut-être plus efficaces. Et enfin, un recul dans l'agriculture, ce qui est, pour ce qui est donc de la favorisation de la décarbonation. Voilà, la publication donc de ce 6e rapport annuel marque la fin du premier mandat de ce HCC, qui s'achèvera officiellement dans 4 jours, le 24 juin. Puisqu'ensuite, il y aura une nomination par décret des membres de l'organisme et d'un nouveau président pour les 6 années suivantes. Tout cela dans un contexte politique marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale. Et le secrétariat général à la planification écologique, ça c'est un conseil d'experts qui est directement rattaché au Premier ministre et qui est donc c'est celui qui pilote la transition écologique du pays, eh bien il semble actuellement en suspens. Ce, alors que tous les documents cadres climatiques dont je vous ai parlé un peu avant, là, la SNBC, PPE ou PNACC, techniquement, ils sont rédigés, ils sont prêts. Ils n'attendent plus qu'un feu vert politique et une signature. Mais visiblement, pour le moment, il n'y a plus personne capable de, ou qui a envie de s'engager, en tout cas, à signer ces documents pour le moment. En somme, donc, la trajectoire vers la décarbonation de la France demeure encore incertaine. Et ce, alors que la surchauffe planétaire augmente à un rythme sans précédent. Si c'était une copie du bac, on pourrait écrire « léger mieux », mais doit à tout prix redoubler ses efforts. Voilà, la prochaine étape crash test, on va dire, de l'écologie à la française, ça sera ce 30 juin, puisque c'est la date à laquelle le Conseil d'État a ordonné au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour respecter ses engagements climatiques européens et internationaux. Tout gouvernement sera de toute façon confronté aux impacts du changement climatique. Commenter sobrement la présidence du Haut Conseil pour le Climat.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Et on va parler infrastructure en surchauffe aussi. On part en Amérique latine. Et Mathilde, je crois que tu nous emmènes en Équateur.
Tout à fait. Hier, dans l'après-midi, l'Équateur a subi une coupure de courant à l'échelle nationale. La panne s'est déclarée à 15h17. Elle a privé pendant plusieurs heures les habitants du pays d'électricité. Le courant a été rétabli à 95% seulement 3 heures plus tard, aux alentours de 18h. Cette panne électrique a eu de fortes répercussions dans les grandes villes, comme à Quito, la capitale du pays, où les habitants ont relevé un chaos routier lié à l'absence de feux de signalisation. Le maire de la ville, Pabel Muñoz, a donc envoyé sur place des employés municipaux pour prévenir les accidents. Le métro s'est arrêté et il a fallu évacuer des milliers de passagers, souvent sur les voies et dans le noir. Mais apparemment, cette évacuation s'est déroulée dans le calme. Internet a par ailleurs été temporairement coupé et le réseau des téléphones cellulaires a été perturbé par intermittence. Dans la ville de Guayaquil, la situation automobile a aussi été fortement perturbée. Le tramway s'est arrêté, de nombreuses personnes se sont retrouvées coincées dans des ascenseurs de grands immeubles. Par ailleurs, l'entreprise en charge de la gestion d'eau potable de cette ville a appelé à faire des réserves d'eau en attendant un retour à la normale. D'après le ministre équatorien de l'énergie, Roberto Luque, cette panne était liée à une défaillance de la ligne de transmission, Milagros Oreille. Il affirme aussi que cette défaillance serait liée au manque d'investissement dans les systèmes et les réseaux électriques. Le ministre n'a pas précisé avec exactitude l'ampleur de la panne ou les éventuelles victimes que l'incident aurait pu entraîner, mais il a parlé de cet événement comme d'un vrai reflet de la crise économique que vit le pays. En avril, l'Équateur avait subi des coupures de courant programmées pouvant aller jusqu'à 13 heures en raison d'une sécheresse prolongée des réservoirs hydroélectriques et de la vétusté des infrastructures. Les coupures ont cessé en mai avec le retour des pluies. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site du journal Le Monde.
Merci Mathilde. Et dans les colonnes de Libération, justement, on commentait aussi cette panne électrique en rappelant que ces problèmes se mêlent à la crise sécuritaire dans laquelle le pays est plongé depuis le début de l'année, le tout sur fond de narco-criminalité. Je vais vous parler un petit peu des tiques géantes. Vous en avez peut-être déjà croisé, enfin j'espère pas. En tout cas, elles sont présentes maintenant en France dans au moins 11 départements, et dont 4 en Occitanie, et dont 2, c'est l'Hérault et le Gard. Donc on est en plein au milieu de l'affaire. Ces tiques géantes peuvent transmettre une fièvre hémorragique mortelle. Pour l'instant, heureusement, pas de cas sur le territoire, mais c'est Midi Libre ici qui nous rappelle quelques informations et réflexes à avoir, puisque la saison des randonnées et des balades en forêt commence. Ces petites bêtes donc s'accrochent, piquent et si on ne traite pas rapidement, peuvent transmettre des maladies potentiellement mortelles. Il y a déjà la maladie de Lyme dont il faut suffisamment s'inquiéter. Mais avec cette tique donc, qui s'appelle Yaloma marginatum, aux pattes rayées et à la taille particulièrement grande, elle fait presque 1 cm, donc une manière assez facile de la reconnaître, eh bien cette tique pourrait faire passer le virus d'un individu ou d'un animal à l'autre via le sang qu'elle a absorbé. C'est le principal risque des tiques en général. Celles-ci sont donc géantes. Et elles peuvent être aussi porteuses de la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme, mais aussi d'un autre virus inquiétant. Cette tique est en effet originaire d'Afrique et d'Asie, introduite en France en 2015, principalement via les oiseaux migrateurs, et elle inquiète les autorités parce qu'elle est susceptible donc de transmettre le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, FHCC pour ceux qui aiment les acronymes. Elle peut provoquer des frissons, de la fièvre, des troubles digestifs et, dans les formes les plus graves, des saignements ou des défaillances d'organes. Aucun cas humain pour l'instant, je vous le disais, heureusement, n'a été diagnostiqué en France, mais ces tiques infectées sont bel et bien présentes sur le territoire, donc une vigilance double est nécessaire. Je vous parlais des 11 départements dans lesquels Santé publique France alerte sur la présence de cette mégatique. Ce sont la Corse du Sud, la Haute-Corse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, l'Hérault, le Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Alors attention, donc si vous partez en rando ou en balade forêt, en cas de piqûre pour enlever les tiques, vous le savez sûrement, mais il faut utiliser un tire-tique ou une pince en veillant à les retirer entièrement. Si vous ne savez pas faire, allez à la pharmacie et demandez qu'on vous le fasse, ça sera plus sûr. Si des symptômes persistent dans les 14 jours qui suivent la piqûre, ça peut être des rougeurs ou des fièvres ou des sentiments un petit peu de courbature grippale, il faut se rendre chez le médecin très rapidement en expliquant avoir été en contact avec une tique afin d'être traité efficacement. Et oui, ainsi que le rappelle notre gentille Anne, les élevages de chevaux, je crois, sont les premières des foyers potentiels. Donc si vous travaillez ou que vous faites des balades en cheval, c'est encore plus important d'être vigilant. Quelques brèves, notamment, on parlait de réchauffement climatique tout à l'heure. Là, c'était l'Aïd ce week-end, dimanche. Le pèlerinage s'est fini en drame à la Mecque. Au moins 645 personnes seraient mortes en raison de la chaleur durant le Hajj. C'est le grand pèlerinage musulman annuel qui avait lieu donc du 14 au 16 juin dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Ce sont des diplomates arabes qui ont fait cette annonce à l'agence France Presse ce 18 juin. Les températures ont en effet atteint presque 52 degrés Celsius à la Mecque, la ville la plus sainte donc de l'islam. Tous sont morts à cause de la chaleur, déclarait donc ce diplomate à l'AFP, à l'exception d'une personne qui serait, elle, décédée à cause de blessures liées à un mouvement de foule. C'est aussi une autre grande cause de mort et d'accident lors de ces pèlerinages à la Mecque, qui sont décidément tout sauf reposants. Le chiffre donc de 645 décès proviendrait de la morgue d'un hôpital. D'après un bilan établi par l'AFP, le nombre de morts survenus dans le Hajj serait peut-être plutôt de 577, mais les annonces des différents pays risquent de continuer à faire évoluer le bilan, puisque chacun compte aussi en fonction des ressortissants qui sont partis là-bas. L'Arabie Saoudite est l'une des régions les plus chaudes de la planète, et avec le changement climatique provoqué par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, des activités humaines, ces vagues de chaleur extrêmes risquent d'être de plus en plus fréquentes, longues et intenses.
Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. pire.
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra.
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Merci, Tintin. On va parler justement de Liberté de la Presse, là, qui fera écho à la pétition du début de ce journal. C'est une journaliste du média en ligne Blast qui a été interpellée il y a 2 jours, le 18 juin, par la police judiciaire. Et elle est restée en garde à vue jusqu'à hier. C'était dans les locaux du commissariat du 11e arrondissement à Paris. Et c'est lié aux recherches, aux enquêtes qu'elle a fait dans le cadre donc d'une enquête sur les ventes d'armes en Israël. Cette reporter couvrait une manifestation qui a eu lieu au siège de l'entreprise d'armement Excelia Technologies, anciennement Eurofarad. Cette entreprise donc d'armement était visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre et homicide, lié, vous l'aurez compris, à ce qui se passe en Israël. La manifestation a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour dégradation et intimidation par le parquet de Paris. Ça, c'est pour les manifestants. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, ont été placés en garde à vue. Mais là, c'est le cas donc de la journaliste qui restait un petit peu suspendue. D'ailleurs, Reporters sans frontières a réagi à cette nouvelle atteinte à la liberté d'informer en dénonçant un risque d'atteinte au secret des sources d'une journaliste de Blast, disent-ils, dont la garde à vue a été prolongée jusqu'à hier pour refus de donner son portable. Elle a refusé de donner son téléphone ou son code. La reporter couvrait donc une action contre les ventes d'armes à Israël, doit être libérée pour RSF. Et le journal Reporter rappelle, lui, que l'interpellation de journalistes qui couvrent une action de la société civile n'est pas légale. La jurisprudence, en tout cas, est claire, comme l'ont montré d'ailleurs 2 jugements en 2023. Cette journaliste... on revient du coup sur les deux actions précédentes, pardon. Un journaliste, justement, de chez Reporter, Alexandre Reza Kokabi, c'était en juin 2020. Il suivait une action organisée par le mouvement Extinction Rébellion. Une trentaine d'activistes pénètrent sur les pistes de l'aéroport d'Orly, près de Paris. Ils demandaient l'interdiction des vols intérieurs pour lutter contre le changement climatique. Lui était journaliste, il a présenté sa carte de presse aux forces de l'ordre et ne s'est livré évidemment à aucun acte illégal. Il se commentait d'observer l'action et les activistes. Et bien malgré tout, ce journaliste a été conduit et détenu dans un commissariat pendant 10 heures. Et le même journaliste, M. Kokabi, en septembre 2021, a été condamné à payer une amende de 750 euros pour cette action. Donc, le journal Reporter qui l'employait a refusé de payer et a lancé une contre-procédure donc devant la justice administrative. Le résultat a mis 3 ans à tomber, donc en novembre 2023, et le tribunal a bien donné raison au journal et a même condamné l'État français. Un autre exemple qui est souligné ici, c'était en novembre 2021, une journaliste de Reporter qui s'appelle Elsa Souchet, qui avait là aussi couvert une action écologiste. C'était sur une usine qui stockait illégalement des semences génétiquement modifiées. Donc une action de sabotage quand même, où en tout cas les militants se sont livrés à la dégradation des sacs de semences illégales. La journaliste était sur place et elle a été poursuivie en justice et a dû attendre donc 2 ans, juin 2023, après une forte mobilisation, pour obtenir sa relaxe. Voilà. Pour ce qui est du cas donc de celle qui a été placée en garde à vue ce lundi, on n'a évidemment pas encore d'informations précises sur ce qui va lui être reproché et sur les suites que donnera ou pas le parquet à cette interpellation.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
On termine avec la saison des feux qui commence et qui continue aux États-Unis. Je vous ai parlé de la Californie mardi. Et bien maintenant, c'est une vingtaine d'incendies qui sont en cours dans tout l'ouest du pays. Au moins une personne est décédée dans l'état du Nouveau-Mexique. Et la situation est également particulièrement critique dans le nord de la Californie. Au Nouveau-Mexique, donc, des habitants se sont fait surprendre par la propagation rapide de l'incendie de South Fork. Il s'était déclaré quelques heures plus tôt près de la réserve indienne des Mescaleros, au centre du Nouveau-Mexique. Près de 5000 personnes ont reçu lundi soir l'ordre d'évacuer cette zone. Et au même moment, un second incendie avait dès le lendemain également menacé le village de Ruidoso. En 48 heures, ces deux incendies à eux seuls ont déjà brûlé plus de 7500 hectares et tué donc une personne. La situation est similaire dans le nord de la Californie, là où les pompiers luttent eux depuis ce week-end contre une dizaine de feux de forêt. Les rafales de vent et le manque d'humidité ont permis ce mardi 18 juin à 2 incendies de se déclarer en plus. Résultat, c'est une grande partie de la Californie qui a été placée hier en alerte rouge incendie. Cela pour inciter tous les habitants à une extrême prudence. Un porte-parole de la protection des forêts californiennes déclarait « Les incendies de forêt peuvent survenir à tout moment et ils peuvent frapper rapidement. Les gens doivent être préparés. » Même si les services de météo prévoient un affaiblissement des vents dans les prochains jours, il ne fait aucun doute pour ce quotidien californien, donc le Los Angeles Times, que les États-Unis viennent d'entrer dans une nouvelle saison des incendies. Et une autre petite info pour compléter ça, peut-être plutôt une bonne nouvelle, on l'espère pour eux, c'est au Canada où cette année, en revanche, donc après une saison 2023 de feux de forêt record avec des méga-feux dans l'état de l'Alberta, cette année, on semblerait que le risque d'incendie est pour le moment plus faible que l'année dernière à la même époque. Cela certainement grâce aux grosses précipitations des dernières semaines qui ont fait reculer la sécheresse dans certaines régions de cette province. Voilà, on espère que ça sera pareil pour chez nous. On va se quitter en musique et un petit hommage funèbre, comme c'est souvent la coutume maintenant dans ces informations, un hommage à James Chance, qui était connu comme l'une des figures de la No Wave dans les années 80. La No Wave, un mouvement de musique en réaction assez brutiste, avant-gardiste, un mouvement de réaction donc à la New Wave et au punk, qu'ils considéraient eux comme trop complaisants. Vous allez l'entendre, ça s'entend. Ce saxophoniste génial et strident a traversé donc un maelstrom d'époque et de courant. Il a œuvré sous de multiples identités. Il a aussi chanté sous le nom James White and the Blacks. Il est mort donc ce mardi 18 juin à New York, âgé de 71 ans. Et c'est un petit hommage à la période de tortillement politique que nous vivons actuellement. On va écouter son tube Contort Yourself, interprété avec le groupe du même nom, The Contortions. Une sorte de collision anarchique de free jazz, disco, punk, new wave et musique abstraite. Un groupe qui se revendique à la fois de James Brown, d'Ornette Coleman ou des Stooges. Et ils ont vécu que 3 ans à peine, mais ont laissé un souvenir de concert mémorable. C'est donc Contort Yourself par James Chance et The Contortions. On se donne rendez-vous la semaine suivante pour d'autres nouvelles du monde. Mathilde, merci d'être venue participer avec nous à cette expérience de journal en direct.
C'était avec plaisir.
Ouais, une petite réaction à chaud. Ça fait quoi d'être en direct à la radio?
C'est un peu impressionnant, mais c'est plutôt bien.
Bon, bah merci d'être passé avec nous. Puis bah bonne suite aussi pour ton stage et la semaine prochaine encore. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.
Bonne journée.
much people get your affection for the human race. Reduce yourself to a zero, baby, then you'll fall right in place. Control yourself one time, control yourself two times, control yourself three times, control yourself four times, control yourself five times.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
C'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Vous ne vous reposez jamais, vous ?